inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Éduquer, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances, de valeurs et de compétences faisant partie d'une culture commune. Les méthodes d'enseignement et d'éducation sont aujourd'hui largement remises en question. Cette émission Carbone Zéro donne la parole à Gilles Vernet, réalisateur du film Tout s'accélère, qu'il tourne avec ses élèves. Gilles nous présente sa vision de l'éducation et de l'enseignement. Gilles, à toi la parole pour présenter ton parcours.
On peut commencer par mon parcours éducatif. D'abord, mes parents, je suis enfant unique. J'avais, comme tout enfant unique, une bonne pression à la réussite. J'ai fait des études très classiques à la méritocratie, à la française, un bon élève. Ensuite, je suis passé dans un lycée ultra compétitif qui était Louis-le-Grand, où là, j'ai subi une compétition assez étouffante. Puis ensuite, j'ai fait les grandes écoles, un peu mécaniquement. J'ai fait les DEC. Ensuite, dans les DEC, la spécialité finance. Et puis, de la spécialité finance, je suis parti dans la banque. D'abord, dans la banque de réseau, c'est-à-dire la vraie banque qui finance les entreprises. Et puis ensuite, attiré par les sirènes des marchés financiers, je suis parti dans des salles de marché pour Indosuez, JP Morgan ou UBS, dans des grandes banques. Et où là, pendant 5 ans, je me suis frotté aux marchés financiers dans cette espèce de frénésie, de délire. Et c'était en plus en pleine bulle Internet.
Jusque-là, tout va bien finalement, tout a l'air de bien se passer. T'as l'air d'avoir, on pourrait dire que tu incarnes une certaine forme de réussite.
Oui, c'est comme un autoroute tout tracé, on va tout droit là où on nous demande d'aller, parce que souvent on souligne, mais pourquoi tant de gens vont dans la finance, en particulier les bons dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, et ça reste encore le cas, et c'est un petit peu comme une poursuite des notes en fait. Le salaire, c'est un peu votre note, après tu gagnes combien, voilà, on a une bonne note. Donc oui, jusque-là, tout va bien, tout est normal. Et puis, il va arriver un événement dans ma vie qui va tout chambouler, qui est l'annonce du fait que ma mère est atteinte d'une maladie incurable, selon les pronostics, 2 ans à vivre au moment où je l'apprends quand je suis dans la finance. Et je m'aperçois que je vais absolument pas pouvoir la voir. Or, j'avais un lien très fort avec elle, qui fait d'ailleurs l'objet d'un livre qui sort en ce moment, qui s'appelle « Maman mourra un jour », et qui est donc une réflexion sur notre rapport à la vie, à la mort. Je pense que c'est une confrontation très initiatique. Et donc, ça va faire cet effet initiatique, ça va, pour moi, m'amener à changer profondément de vie, à m'interroger à ce moment-là sur qu'est-ce que je veux faire. Je savais pas que j'allais devenir instituteur à cette époque-là, du tout. Donc j'ai fait des différentes choses, du coaching, des scénarios.
Et donc là, tu quittes la finance sans savoir encore vers quoi tu vas. Mais ça te paraissait être comme une évidence qu'il fallait que tu sortes de ce rythme qui était effréné, si je comprends bien.
Exactement. Et puis vraiment, la raison principale, c'était de pouvoir passer 2-3 jours par semaine avec ma mère et prendre le temps de l'accompagner dans son chemin. En fait, qui a duré 6 ans. Hein. Finalement, elle a vécu plus longtemps et une bonne partie heureuse. Je vais m'interroger là-dessus, sur quoi faire. Et j'ai deux amis qui étaient à Louis-le-Grand avec moi et qui, avec des études brillantes, sont devenus, dont l'un avait fait HEC, ont tout quitté, sont devenus instituteurs. Et ils aimaient vraiment leur métier, ils y trouvaient vraiment quelque chose d'essentiel. Et ils m'ont amené à me poser la question, pourquoi pas. Donc j'ai passé le concours en candidat libre, je l'ai eu. Puis après, j'ai eu cette année à l'IUFM où j'ai commencé à rencontrer des classes, c'est-à-dire à être pendant un mois. Ma première classe, c'est une classe de petites sections, 30 petites sections dans le 19e. Je me rappelle, au début, j'étais complètement perdu. Mais très vite, j'ai vu la richesse incroyable de ce métier du point de vue humain.
Donc là, tu l'as vu parce que tu as vécu l'expérience, mais avant de le vivre, qu'est-ce qui t'a dirigé vers l'éducation? Est-ce que tu t'es interrogé sur le fait que tu sois attiré par ça, par l'enseignement?
Alors, j'ai toujours été attiré par la transmission, c'est-à-dire l'utilisation du langage pour transmettre des connaissances. Avant, j'avais donné des cours particuliers, mais ça s'arrêtait là. C'est plus... ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y a une part de hasard, on va jamais vers quelque chose comme ça par hasard. Mais bon, j'ai passé le concours parce que ses amis étaient profs et que je voulais voir. Et c'est vraiment à l'usage, en étant avec ses enfants, en voyant tout ce qu'on peut leur apporter, que d'un seul coup, on trouve sens à ce qu'on fait. Et en particulier, comme je vivais la fin de vie de ma mère, être au contact d'enfants qui vous projettent dans l'avenir, dans le devenir, ça pacifie beaucoup par rapport à une confrontation à la mort qui est quand même parfois pas évidente à vivre. Ça fait beaucoup de bien, voilà.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que donc tu as repris l'ascenseur social dans l'autre sens, quoi. Tu étais trader, donc avec dans ce monde économique, dans cette sphère de l'argent, pour finalement se retrouver prof. Comment est-ce que tu as vécu ça?
Alors, ce qui est bizarre, c'est de dire que j'ai pris l'ascenseur social dans l'autre sens, dans le sens où, de mon point de vue, j'ai beaucoup monté dans mon échelle de valeur sociale. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus utile aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais dans la finance, d'un point de vue concret. En revanche, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir que, effectivement, socialement, c'est à la limite moins reconnu que d'être trader, parce que la valeur argent sanctionne votre réussite. Et donc là, vous êtes trader, vous gagnez beaucoup d'argent, donc vous réussissez. Et puis, vous seriez prof. Et là, d'un seul coup, ce serait la chute dans l'échelle sociale. Et c'est étonnant qu'on en soit rendu à penser ça, quand on pense que l'instituteur, dans les années 50, c'était celui qui avait la voiture avec le maire, etc. Le statut d'enseignant a largement baissé. Or, c'est dommage, parce que c'est quand même un des métiers les plus utiles et les plus fondamentaux de la société, évidemment.
Donc t'as quelque part remplacé la valeur argent par la valeur bonheur?
J'ai la chance que ça se passe plutôt bien dans mes classes et d'avoir des joies et des réussites, donc oui, bonheur, mais surtout utilité, c'est-à-dire sens. Et c'est quelque chose de très très différent du monde de l'argent, où on poursuit une utilité propre, quoi, enfin, son compte en banque, sa réussite et la reconnaissance sociale, mais ça nourrit pas profondément.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Gilles, donc tu es ancien trader, suite à un événement, tu apprends que ta mère a une maladie incurable, une sorte d'électrochoc, tu choisis de changer ton parcours. Tu te retrouves dans l'enseignement face à une classe, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'est venue cette idée de mettre en place ce film et ce thème, cette thématique, l'accélération du temps?
Déjà, au fil des classes, j'ai commencé un peu à filmer les élèves. Parce que j'aime le montage, j'aime les films en général, et je me suis aperçu que ça marchait pas mal. Les enfants, quand on les filme, ils donnent un peu aussi souvent le meilleur d'eux-mêmes. Mais le film lui-même, Tout s'accélère, vient de la lecture d'un livre qui s'appelle Accélération et qui montre que toutes les sphères de l'activité humaine sont pris dans une spirale d'accélération. Ça montre bien qu'on a un rapport au temps qui pose question, et c'est ce que je voulais traiter dans ce livre. Pourquoi on court contre le temps alors qu'on sait qu'on passe un peu à côté de sa vie quand on fait ça? Pourquoi on continue à avoir une société rivée dans la croissance alors que la croissance, c'est la prédation sur les ressources et la certitude qu'à un moment, on va les épuiser? Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur le sujet. J'ai voulu faire un documentaire classique. Et comme j'étais un stage, j'en ai parlé à mes élèves. Parce qu'on parle des sujets qui nous intéressent quand on est prof, toujours. Et les élèves avaient tellement de choses à dire et un regard tellement neuf par rapport à ce que j'avais pensé. Ils ont un autre rapport. Ils nous regardent aussi courir en tant qu'adultes. La colonne vertébrale du film, c'est leurs interrogations qui nourrissent toutes les réflexions des penseurs ou des sages qui sont dans le film, comme Étienne Klein, Nicole Aubert, Nicolas Hulot ou Hartmut Rosa qui est présent dans le film.
Est-ce que tu peux revenir sur des réflexions d'enfants avec toute leur innocence qui t'ont profondément marqué?
Une qui m'a vraiment profondément marqué, je me souviens d'ailleurs, je le dis dans le film, je réagis en disant bravo, c'est un élève qui réagit à une qui parle du fait de courir pour être premier, voilà pourquoi les gens courent pour être premier, plus fort que les autres, et il dit mais si on court toujours plus vite on va être premier, c'est pas sûr, parce que si on court toujours de plus en plus vite, à un moment on va se fatiguer, on va ralentir, on va perdre de l'énergie. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, on songe au burn-out aujourd'hui, tant de gens qui se poussent dans le rouge au dernier degré jusqu'à craquer, mais on peut penser évidemment à la planète, au fait qu'on l'épuise, qu'à un moment on va arriver à certaines limites. Et voilà, cette phrase frappée au coin du bon sens, moi, m'a ramené au fait, fondamentalement que je défends dans mon second livre, qui s'appelle « Tout s'accélère, comment faire du temps un allié », c'est le fait qu'on est aujourd'hui dans nos sociétés, il devient essentiel de faire attention à alterner les rythmes, à se ménager des phases de régénération dans une société qui vous les nie, qui vous les dénie. Ou alors la phrase qu'un des enfants avait inventée pour la chanson du film, qui s'appelle « Tout s'accélère dans l'univers depuis que l'homme est sur Terre », et où il dit « Ce n'est pas pour vous déplaire, mais c'est élémentaire, quand on n'aura plus de ressources, ce sera la fin de la course ». Voilà, ces capacités de synthèse des enfants à dire en quelques mots des trucs géniaux et qui frappent l'esprit, voilà, c'est ça l'esprit du film.
Alors, est-ce que les enfants sont pas plus éveillés que nous? Parce que nous, on est pris dans nos vies. Tu disais que tout s'accélère, donc on se pose même plus la question du sens dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on met en place. Et les enfants ont ce potentiel-là, ont en tout cas encore cette clairvoyance?
Oui, et ils ont aussi une souffrance de plus en plus palpable, qui est encore plus nette avec les classes qui ont suivi le film. Une souffrance à voir leurs parents courir et avoir jamais de temps pour eux. On parle souvent du temps de l'enfance, de cette lenteur, de besoin de jeux gratuits, de temps d'ennui. Les écrans leur enlèvent un peu ça. Et puis ces enfants voient aussi, comme je le disais, la souffrance de leurs parents. Et c'est souvent dans le cadre de la famille que les choses ressortent. Quand on est crevé, on rentre, oh, j'en peux plus, c'est dans la famille que tout ça sort. Et donc les enfants sont souvent les paratonnerres de tout ça. Vous savez, les deux phrases qu'ils entendent le plus aujourd'hui, c'est attends, parce qu'on est en train de faire autre chose. Et puis d'un seul coup, parce qu'on doit partir, dépêche-toi, allez, dépêche-toi. Et l'enfant vit ça en permanence. C'est une forme de souffrance qu'il vit. J'ai un enfant récemment qui me disait, mais maître, vous êtes bien gentil, vous dites de pas passer notre temps devant les écrans, mais moi, mon père, quand il rentre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se met devant son ordinateur et il traite ses mails.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait la solution?
Il y a les solutions individuelles et les solutions collectives. Cette question collective, je peux pas prétendre seul y avoir des réponses. J'ai quelques solutions, mais c'est tellement complexe le monde aujourd'hui que ce serait un peu présomptueux d'avoir des solutions collectives. D'un point de vue individuel, par contre, je crois qu'il y a une chose dont il faut prendre conscience, et ça c'est essentiel, c'est la notion d'exponentiel. Et c'est une fonction qui, en fait, augmente lentement au début, puis d'un seul coup augmente de plus en plus vite, et à un certain moment, très 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 vite, vers les limites. Les SMS, on a un flux exponentiel de SMS qui arrive vers nous. Les mails, flux exponentiel de mails qui arrive vers nous. Chaque année, plus de mails. Chaque année, plus de SMS, plus d'appels. Vous êtes submergé. Et comprendre que on est face à quelque chose qui nous submerge nous amène à avoir une position de choix, de renoncer à certaines choses, sans culpabilité. Il faut sortir d'une culpabilité qui voudrait qu'on soit parfait. Je fais tous les matins, quand on démarre la classe après l'appel, on démarre tous, hop, une petite méditation de 5 minutes. Ils sont tous droits comme des i sur leur chaise, le ventre libre, et ils commencent à respirer, et ça pose un autre rapport au temps pour la matinée, un autre rapport entre eux. C'est extrêmement bénéfique au point qu'ils le demandent si je l'oublie.
C'est bien, tu me parles de la classe, donc on va continuer sur cet aspect-là. On va parler un peu de ta vision de l'éducation. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter, toi, dans ta classe?
L'éducation, c'est un sujet tellement immense. Il y a une chose qui m'a été dite par un de mes amis, ceux qui m'ont inspiré pour devenir instituteur, et qui m'avait dit, voilà, bon, t'arrives, t'as 35 piges, t'arrives prof, t'as fait d'autres choses, libère-toi des programmes, il m'avait dit, et enseigne ce que tu aimes. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, très déculpabilisant d'ailleurs. Et donc, enseigner ce qu'on aime, c'est quand même la garantie de transmettre cet amour, cette envie, et qu'après, ça vive. Donc ça, c'est la première chose qui fait que je crois qu'il faut faire confiance aux enseignants.
Mais là, ce que j'entends, ce que je comprends, toi, tu as pu avoir ce recul suffisant, parce que tu avais déjà une vie avant d'être prof. Donc, libère-toi des programmes, tu as pu le faire parce que tu étais force d'expérience à travers tout ce que tu avais acquis dans ton existence. Mais le prof qui va aller à 20 ans se lancer dans l'éducation nationale, il n'a pas ce retour sur expérience. Donc, effectivement, il s'accroche à quelque chose. Donc, c'est peut-être vraiment ça, la problématique.
Oui, mais encore une fois, à 20 ans, il a des passions. À 20 ans, il aime ceci. Là où on est passionné, on a un savoir-faire réel. D'accord. Et ce savoir-faire, on le transmet en enseignant. Et donc, on va transmettre ce qu'on sait le mieux faire. Et les enfants vont l'ancrer.
Donc, quelque part, en étant passionné, on devient passionnant.
Exactement. Et chacun a quand même ses sphères de passion.
Donc step one, première étape, se libérer des programmes.
Et se faire confiance et enseigner ce qu'on aime. Il y a cette dimension-là, et puis il y a une autre dimension qui me semble importante, c'est la notion d'amour. Je suis dans des classes du 19e, dans une, pas zone d'éducation prioritaire, mais un réseau d'éducation prioritaire, avec parfois des enfants vraiment difficiles, en grande difficulté psychique ou familiale, et qui, dans un premier temps, demandent d'être cadrés, vigoureusement. Ce dont je me suis aperçu, c'est que ces enfants avec qui on peut être dur, mais qu'on va valoriser dès qu'ils reprennent le bon chemin, on va dire, ou qu'ils font un truc bien, ces enfants-là sont ceux qui, à la fin de l'année, vous serrent en pleurant, alors que vous avez été dur avec eux. Et ça m'a vraiment frappé. Et ils veulent pas vous lâcher parce que vous êtes occupé d'eux. Mais on engueule un enfant par amour aussi. Dans l'éducation, le corps est nié au dernier degré. C'est fou. L'enfant, il est assis. Mouchepan, on lui demande de pas bouger une journée durant. Une fois, j'ai fait ça entre les élèves. Il y avait des problèmes de communication. Je leur ai fait faire des hugs entre eux. Ça a été génial. Mais voilà, on oublie la place du corps, tout simplement, comme je disais, serré contre soit l'enfant avec par l'épaule en disant « c'est du bon boulot ». Ça le met en joie.
Et comment est-ce que tu te positionnes par rapport au système d'évaluation, ce système de notes qui, des fois, divise la classe ?
Là, c'est une de mes contradictions majeures. Je note tout. Mais j'ai un discours très clair, c'est que je veux pas qu'ils échangent leurs notes entre eux et qu'un enfant qui chouine alors qu'il a plus de 15 ou plus, je veux pas en entendre parler, qu'il ait 15, 16, 17. Ça désacralise un peu les choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, la note, elle est omniprésente après, on est dans un système hyper compétitif et on veut l'éliminer complètement avant. Alors, je pense que dans les petites classes, oui, elle sert à rien. Jusqu'au CE2, au moins, ça sert pas à grand-chose. Mais après, ils vont être projetés là-dedans, et moi, je suis pour avoir beaucoup de notes et les désacraliser. Maintenant, cela dit, ce que je développe de plus en plus, et ce qui est génial, même dans les évaluations, c'est l'aide entre les élèves. Mais on a instauré ça dans la classe, et c'est génial. C'est, ils ont fini, je peux aider qui ? Bah, vas-y, tu vas l'aider. Parce qu'évidemment, en tant que prof, on ne peut pas se démultiplier. Vous avez des très bons élèves parfaitement capables d'expliquer les notions. Et alors, effectivement, vous avez un élève qui allait avoir 12, s'il n'avait pas été aidé, il a 16. Mais tant mieux. Tant mieux. Considérez que l'évaluation n'est pas une sanction de type concours à chaque fois, mais qu'on s'aide les uns les autres pour avoir les meilleures notes possibles et qu'en fait, on est encore en train d'apprendre quand on fait son évaluation. Par exemple, mon inspectrice nous a présenté une technique absolument géniale pour faire des dictées, que j'ai mis en place, mais j'en reviens pas. C'est, prenez vos cahiers, écrivez. Très bien. Maintenant, ils sont en îlot, en groupe. Maintenant, mise en commun, vous allez écrire, réécrire, vous, à 5, la dictée, mais il faut qu'il n'y ait pas une erreur. Vous discutez, vous vous débrouillez. Vous négociez entre vous les règles. C'est le plus faible de chaque groupe qui dit son orthographe en premier. Puis les autres vont discuter, lui expliquer pourquoi, etc. Dément. Les bons développent un métalangage où ils doivent expliquer les règles, donc ils les mémorisent totalement, ça devient très facile pour eux. Et les autres portent une attention autre à la parole du camarade. Et après, on met en commun, tous ensemble, et voilà, le groupe qui a réussi à pas avoir une erreur est tout content. Voilà, technique, vous voyez, présentée par l'inspectrice, qui connaît aussi les zones d'éducation prioritaire, mais que j'ai mis en place, et qui s'appuie sur la coopération, et qui est 10 fois plus puissante. Ce qui est génial avec l'éducation aujourd'hui, c'est que ça foisonne d'idées, mais comme jamais. Ça passe par les éducations Montessori, ça passe avec les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Bon, il y a 1000 idées qui viennent, mais ce qui est très intéressant, c'est que développer des techniques de coopération à l'école, c'est ancrer des techniques de coopération pour la suite dans les entreprises. Ils vont faire la même chose. Aujourd'hui, on est très interdépendants les uns des autres. Et pourtant, on est dans un monde hyper individualiste et compétitif.
Dans le film, tout s'accélère, il y a aussi un autre professeur qui a tout son rôle à jouer, c'est la nature, l'observation de la nature et les rythmes naturels.
la mise au contact de la nature, entre autres pour beaucoup d'enfants qui vivent dans des cités, qui ne l'ont jamais vue, hein, jamais. Et un moment, alors là, initiatique phénoménal, et un vrai moment de leçon de vie. Dans le film, elle est omniprésente, parce que, effectivement, par rapport à notre course, le temps de la nature nous ramène à autre chose. À la montagne, par exemple, vous mettez devant un ciel étoilé, c'est difficile de se sentir important, très important, et de croire que notre course individuelle est primordiale face à ce, on est tellement rien. Mais ça, on le perd dans les grandes villes. La nature apprend, reconnecte à des cycles profonds, et je pense à une vraie valeur de ce point de vue-là, sans parler de sa valeur métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui nous contient et dont on fait partie. Des profs qui ont fait ces immersions-là m'ont raconté le bonheur que ça, qu'ils voient se dessiner dans le regard d'enfants et que c'est un fantastique de leur donner ça. Et je pense que, effectivement, pour les grandes villes, ça devrait être une question comment inclure la nature et dans la mesure du possible, il faudrait le plus souvent possible mettre les enfants au contact de ça.
Peut-être le côté sensoriel hein, dont on parle dans Montessori.
C'est vrai que les sens, quand on regarde, ils sont encore une fois très limités dans ceux qu'on sollicite pour l'enfant, dans le cadre de la classe. Toutes ces activités qu'on fait gratuitement pour le seul bonheur qu'elles nous apportent. D'accord ? Cuisiner, jouer du piano, partir se faire une balade. Et les enfants adorent ces moments-là. Un quart d'heure de chant, ça vous remet une classe au diapason peinard. Ils sont bien relaxés, ils sont contents. En plus, ils adorent ça, ça chante bien souvent les enfants. Voilà, c'est des activités où les enfants vont reconnecter avec leur sens et qui vont faire souvent, qui sont un bon interlude aux activités de connaissance, quoi, où on va quand même devoir absorber du savoir, quoi.
Force de toute ton expérience, qu'est-ce que tu as envie de dire, les conseils ou des clés à donner aux parents?
Alors c'est très intéressant que tu parles des parents parce que c'est souvent des enfants que tu passes ta vie à aider en classe, rentrent chez eux, c'est un chaos affectif. Et associer les parents à l'éducation de l'enfant et à ce qu'on fait à l'école est fondamental. Or, dans l'éducation publique, le rapport aux parents est pas toujours proche. Chaque année, les élèves qui vous posent le plus de difficultés, quand vous faites la réunion parentale, les parents qui ne sont pas là sont les parents de ces élèves-là, là, très souvent. Et donc, faut absolument les voir. Rééduquer les parents, ça s'avère très utile. Ensuite, il y a un autre aspect qui est très intéressant dans toutes les zones d'éducation prioritaire, c'est les cours pour les parents, à comment être parent. Et ça donne de vrais résultats, parce qu'en fait, les parents sont demandeurs.
Alors moi j'aurais une question, ce serait, est-ce qu'on a toujours besoin d'un électrochoc pour changer ?
Comme je dis souvent, ma mère n'aurait pas eu cette maladie, je ne sais pas si je serais encore dans la finance. J'ose espérer que non. Je pense que les électrochocs sont quand même la plupart du temps nécessaires. Et parmi ceux-là, il y en a un, c'est la confrontation à la mort, quoi. Parce que cette confrontation-là nous amène à nous poser peut-être les bonnes questions.
Ouais, sinon je me demandais aussi quel conseil tu donnes quand tu fais des conférences en entreprise, dans les banques, au cadre.
Alors le premier conseil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le plus important, déculpabiliser. C'est-à-dire comprendre que on est face à quelque chose d'exponentiel qui nous écrasera si on le laisse nous écraser. Voilà. À partir de là, ça aide. Mettre en partage cette chose, c'est-à-dire que on est là tous avec des sourires, ça va, ouais, super, la pêche, ouais, pour en famille péter les plombs, en pouvoir et puis finir en burn-out. Non, partager la souffrance temporelle. Ensuite, il y a toutes les techniques que je développe dans mon livre « Comment faire du temps un allié », où là, c'est des techniques comportementales. D'un côté, la méditation est vraiment au cœur parce que, la méditation, c'est un grand mot, la respiration, cette espèce de recentrage sur le corps, l'esprit s'unit au corps pour ressentir sans plus trop penser. Quand le stress s'empare de vous, allez chercher cette bouée de sauvetage et déjà vous n'êtes pas sorti d'affaire parce que le stress continue, mais ça aide beaucoup, beaucoup. Ensuite, d'autres techniques, comprendre que les outils technologiques nous droguent complètement. On est addict comme jamais. 220 fois par jour, en moyenne, un salarié se connecte. Boum, remet. Ça fait une fois toutes les 3 minutes. Donc, quand vous êtes dans un moment de vide, hop, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous faites répétition, le réflexe, vous sortez le portable. Et vous n'avez plus de moment de vide. et vous allez vers le burn-out, puisque vous n'avez plus ces moments de décontation, qui sont les moments où le superflu descend et l'important remonte. Il y a des études qui ont montré que le sommeil est une phase critique pour ça, essentielle pour cette raison. Parce que quand on se couche le soir, c'est le moment où, pour demain, il faut que j'y pense, demain c'est important. C'est alors que dans la journée, on était là, il faut que je fasse ça, il y a ça, tout se confond, c'est la confusion totale. Donc, il y a une vigilance qu'on doit avoir pour se ménager ces temps-là. Il y a plein de moyens de le faire. D'ailleurs, un des moyens, c'est les activités autotéliques dont je parlais, qui sont ces activités qu'il faut se ménager. Combien de salariés vous diront « Ah, moi, ce qui me fait survivre, c'est mon cours de poterie, de chant, de théâtre. » Parce que c'est le moment où ils se remettent, ils se reconnectent. Et dernière chose, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est de comprendre que les Facebook, les YouTube, les programmeurs de ces trucs-là, qui sont aujourd'hui riches à milliards, leur but, c'est que vous restiez le plus longtemps dessus. Quand vous allez là-dessus, c'est comme un dealer qui vous donnerait vraiment ce que vous voulez au moment où vous voulez, et ben vous êtes vite en situation d'addiction. Et d'ailleurs, c'est très favorable pour eux, puisque leur cours de bourse dépend du nombre d'utilisateurs fois le temps de connexion. Et donc, il faut être veillé à comprendre que qu'on est des jouets de ça et que donc il s'agit juste de veiller à y aller, parce que ça peut être intéressant, il y a plein d'aspects intéressants, mais de manière mesurée et en se surveillant un peu comme un alcoolique, enfin quelqu'un qui aurait tendance à avoir un petit coup sur la bouteille un peu trop fort, essaye de faire attention.
Alors, rajoute-nous ce point-là par rapport à un des outils que tu utilises dans tes classes, dans ta classe.
Il y a une autre activité assez centrale dans mon enseignement et qui est en fait d'ouvrir la semaine par une citation philosophique. On fait la méditation et puis après, chacun écrit la citation philosophique dans son cahier de classe et on va en discuter. C'est des moments absolument passionnants où les enfants construisent leur jugement. Au début de l'année, souvent je suis là à me dire « Oh là là, mais ils savent pas du tout analyser une... » Mais c'est normal, ils l'ont jamais fait. En les nourrissant de citations, ça peut être celle qui entraîne des débats passionnants. C'est une citation de Montesquieu que j'adore, où il dit « Si on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait. » Mais le problème, c'est qu'on veut être plus heureux que les autres. Et c'est le plus souvent difficile, parce qu'on imagine les autres plus heureux qu'ils ne sont. Cette phrase-là, chez eux, ça va déclencher des discussions fascinante. Il y avait une élève qui avait levé le doigt en disant « Ah mais c'est vrai, dans la classe, en fait, on envie toujours celui qui a une PS, une DS et toutes les tablettes, qui a tous les jeux. Mais peut-être que ses parents, ils lui payent tout ça parce qu'ils le voient jamais. Et qu'est-ce qui est plus important, voir ses parents ou avoir tous les jeux ?» Développer le jugement critique des enfants, je pense que c'est une des principales fonctions d'un enseignant, parce que ça, ils le garderont. Ils ont besoin, dans une société qui manque pas mal de repères moraux, en revenir à des paroles de philosophes ou même simplement de penseurs, ça les amène vraiment à se poser des questions qui les rassurent, parce que c'est des questions profondes qui vous suivent, qui vous aident quand vous avez compris certaines choses. C'est des choses qui dépassent un peu le quotidien et qui vous aident à vous construire et à construire votre jugement. Et donc pour moi, c'est une des activités centrales et qui a l'énorme vertu en plus de développer, comme aucune autre, le langage oral.
Merci, merci Gilles. Dans cette émission de Carbone Zéro, vous avez écouté Gilles Vernet.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.